Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Pendant toute cette dernière année, notre Église a réfléchi sur une déclaration de foi. Une déclaration de foi, c'est important, c'est une manière de dire au monde ce que l'on croit, ce que l'Église croit. Bon, c'est toujours une négociation, parce que chacun de nous croit en Dieu d'une manière particulière, mais à un moment, il s'agit de dire en Église ce que notre Église croit, ce en quoi elle croit, comment elle envisage son Dieu, comment elle envisage ce que c'est que d'être chrétien aujourd'hui dans ce monde. Donc, une déclaration de foi est toujours pour une part contextuelle, mais aussi pour une part en dehors de tout contexte, parce qu'elle doit affirmer le cœur, l'essentiel aussi de l'Évangile. De la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est essentiel, qui est que Dieu nous aime, que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Il me semble que ce psaume 147 que nous avons relu est de l'ordre d'une confession de foi, qui nous dit de manière assez précise et assez forte à la fois comment Dieu est Dieu devant les hommes et comment les hommes sont exhortés à être hommes devant Dieu. Comment Dieu, aujourd'hui et depuis toujours, est Dieu devant les hommes. Certainement, vous l'avez entendu, ce qui me frappe dans ce psaume 147, c'est que Dieu est présenté comme un Dieu créateur, comme un Dieu qui a en lui une force, une puissance de vie extraordinaire, comme un Dieu qui est éminemment intelligent. Il est bon de se rappeler cela. Que notre Dieu est un Dieu créateur, un Dieu plein de puissance, de vie, et cela, je le crois, j'en suis même sûr, n'est pas incompatible avec le fait que Dieu se soit venu se révéler en faiblesse, dans la personne de Jésus-Christ. Que ce même Dieu en Jésus-Christ nous invite non pas seulement à le considérer comme un Dieu puissant, mais aussi comme un Dieu que l'on peut considérer comme un frère, comme un ami. Jésus a dit à ses disciples, « Ne m'appelez plus maître, mais appelez-moi ami. » Et quelquefois, au nom de ce Dieu, de Jésus-Christ, nous avons tendance à vouloir oublier que Dieu est aussi un Dieu de puissance, un Dieu de vie. Et je voulais vous le partager ce matin. Je crois en même temps à ce Dieu éternel, à ce Dieu de vie, à ce Dieu d'une puissance de vie incroyable, insoupçonnable. Et je crois aussi en même temps à ce Dieu qui s'est fait humble en Jésus-Christ. Dieu est Dieu devant les hommes parce qu'il est un Dieu créateur. Dieu est Dieu devant les hommes aussi, et le psaume 147 nous le dit, parce que Dieu veut bâtir, parce que Dieu veut même reconstruire. Dans ce psaume est évoqué évidemment ce temps de l'histoire d'Israël difficile où le peuple a été exilé, où une partie du peuple a dû abandonner son pays, partir vers un pays improbable, Babylone, et essayer de reconstruire sa vie. Le psalmiste fait référence à ce temps difficile de l'histoire, mais affirme que Dieu ne cesse de construire, que Dieu ne cesse de rebâtir, ne cesse de construire, de rebâtir son Église, ne cesse de construire, de rebâtir son peuple. Et cela ne nous appartient pas. C'est de l'ordre de la volonté de Dieu. Alors quelquefois, il peut arriver que nous soyons inquiets, et c'est légitime. Quelquefois, les responsables d'église peuvent se dire, comment tout cela va-t-il se terminer? Eh bien, cela n'est finalement pas légitime. C'est Dieu qui a son peuple entre les mains, c'est Dieu qui a son église entre les mains, et c'est lui qui décide quand et qui il veut rassembler. Croyons en un Dieu qui construit, croyons en un Dieu qui bâtit au cœur de ce monde et au cœur de nos vies. Dieu est aussi Dieu devant les hommes, parce qu'il est un Dieu qui relève. Cette affirmation de foi, cette confession de foi traverse tout le livre des psaumes. Voyons combien le psalmiste n'hésite pas à dire à Dieu à dire sa faiblesse, à dire son manque d'espérance, à dire cette difficulté qu'il a à affronter les ténèbres qui se présentent à lui. Souvenons-nous de tous ces psaumes, notamment David. On vient à dire à Dieu, à quoi bon continuer à vivre si c'est pour être la proie de mes ennemis, des taureaux de bassin m'enserrent, ils me saisissent à la gorge. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Pensons au livre de Job aussi, qui décrit ce qu'un être humain est appelé à affronter quelquefois, la plus profonde solitude, la plus profonde détresse. Alors il est bon d'entendre ce cri du cœur qui jaillit du psalmiste dans ce psaume 147. Je crois en un Dieu qui relève. Je crois au Dieu de la résurrection qui s'est relevé d'entre les morts et qui veut nous relever, nous aussi, de nos ténèbres, de nos morts, de nos moments de dépression, de nos moments d'infinie solitude. Nous voulons croire à ce Dieu-là. Parce que peut-être, et je l'espère, nous l'avons expérimenté au cœur de nos vies, et aussi parce que d'autres ont pu nous témoigner qu'ils sont passés par là, par la vallée de l'ombre de la mort, et qu'ils en sont sortis vainqueurs, relevés, vivants malgré tout. Vivants malgré tout. Dieu est Dieu devant les hommes parce qu'il est un Dieu qui crée, qui continue de créer au cœur de sa création, parce qu'il est un Dieu qui relève, parce qu'il est un Dieu qui rassemble son corps pour faire église, et aussi parce qu'il est un Dieu qui parle, qui partage ses préceptes. Il n'est pas seulement un Dieu lointain qui aurait créé, qui abandonne sa création, qui abandonne son Église, mais un Dieu qui parle à son Église, qui parle par les Écritures, qui parle par le Saint-Esprit donné à son Église. Nous croyons en un Dieu qui parle. Dans le psaume 147, évidemment, pour le psalmiste, il y a une évidence, c'est que Dieu ne parle qu'au peuple d'Israël. C'est contextuel. Le peuple d'Israël a la certitude d'être le seul peuple élu et peut-être et certainement Dieu a décidé de se révéler d'abord au peuple d'Israël. Il était évident que Dieu se révélait d'abord au peuple d'Israël. Mais vous l'avez entendu dans l'épître de Tite, il est affirmé qu'en Jésus-Christ, Dieu partage ses préceptes, Dieu partage sa parole à toutes les nations et c'est lui, encore une fois, qui décide qui est son peuple. Les frontières s'ouvrent en Jésus-Christ. La bonne nouvelle s'ouvre à tous. Dieu est Dieu devant les hommes parce qu'il continue à créer, parce qu'il bâtit, parce qu'il rassemble, parce qu'il partage ses préceptes et parce qu'en Église nous sommes appelés à les écouter. Et quant à l'homme, il est homme devant Dieu, il me semble, au travers de ce psaume 147, au travers de deux attitudes, de deux chemins de vie. D'abord, la louange. Louez Dieu, alléluia. Louez Dieu car il est bon. Louez Dieu dans son Saint-Temple. Louez Dieu sur ses parvis. Le propre du chrétien, le propre de l'être humain, et de reconnaître Dieu pour qui il est, de le reconnaître comme seul et unique Dieu. Et cela passe par le chemin de la louange personnelle bien sûr, si nous avons la chance de chanter juste, de le louer par notre chant, et même si nous ne chantons pas juste, de le louer par notre chant malgré tout, si nous avons la chance de jouer d'un instrument de musique, de prendre notre instrument de musique et de le louer, de le louer au cœur de la création, en prenant ses deux jambes, si nous avons la chance de marcher au cœur de sa création, de le louer pour la beauté de sa création. Donc de le louer de manière individuelle, mais peut-être ce qui est encore plus fort et ce qui rend plus joyeux Dieu, de le louer en tant qu'Église. L'Église comme un seul cœur, un seul corps chantant. Ce n'est pas un hasard, je le crois, si l'Apocalypse décrit le royaume de Dieu, en tout cas c'est une métaphore qui est utilisée comme l'assemblée des croyants venus de tous les horizons, de tous les peuples, rassemblés pour chanter, pour louer Dieu. Alors la louange est assurément un geste décisif de l'Église. La musique est assurément un geste décisif de l'Église. Peut-être un chemin décisif pour notre Église protestante unie de France. Je crois que, oui, il nous appartient de savoir, de comprendre, d'essayer ensemble, au-delà de toutes nos traditions musicales, au-delà de toutes nos sensibilités musicales, de pouvoir ensemble louer Dieu. Et je le crois, cela passe peut-être et sans doute par plus de variété musicale. C'est pourquoi, ce matin, j'ai souhaité que notre culte soit accompagné par le piano et pour une fois, pas seulement par l'orgue. Être homme devant Dieu, c'est le louer, c'est prendre le chemin de la louange. Être homme devant Dieu, c'est aussi prendre le chemin de l'espérance. Être chrétien, croire en Dieu, c'est espérer. Espérer malgré tout. Espérer contre tous. Espérer parce que nous avons reçu cette bonne nouvelle que nous étions les bien-aimés de Dieu. Espérer parce que depuis le petit matin de Pâques, nous n'avons plus à avoir peur. Notre principal ennemi, la mort, a été vaincu et nous sommes appelés à la résurrection. Espérer parce que de manière définitive, nous ne sommes pas seuls. Dieu en Jésus-Christ nous accompagne jour après jour. Je reviens d'une semaine de formation avec le CPLR à 7, dont le titre était « Faire corps, le corps pastoral, réalité ou chimère ». Est-ce qu'il est possible de rêver, de penser un corps pastoral et plus largement une église qui fasse corps. Au cours de cette formation, j'ai vécu un moment très très fort. Je ne le savais pas, en tout cas je l'avais pas intégré, que ma professeure de Nouveau Testament et de grec, quand j'ai fait mes études de théologie, voici plus de 20 ans, allait être présent à ce stage. Donc déjà, Dieu rassemble son peuple, c'était voilà, une manière dont j'ai pu le vivre, revoir cette sœur en Christ 20 ans après. Et puis, les animateurs de ce stage avaient pensé, puisqu'on parle de corps, il faut quand même qu'on prenne en compte notre corps de chair. Donc, ils avaient fait venir des ostéopathes. Et là, l'ostéopathe, à un moment, nous dit, bon, eh bien, vous allez vous mettre deux par deux et vous allez vous masser les pieds. Et moi, je suis tombé évidemment avec qui ? Avec ma professeure, de Nouveau Testament. Et là, évidemment, dans ma tête, je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous, c'est le lavement des pieds, quoi, évidemment. Et là, dans ma tête, mais c'est pas à toi, Corinna, ma professeure de Nouveau Testament, de me masser les pieds. Eh bien si, voilà, elle m'a massé les pieds et je lui ai massé les pieds. Métaphore pour moi, véritable, de ce que ça veut dire que Dieu rassemble et nous appelle à faire corps. Être homme devant Dieu, c'est prendre le chemin de la louange, le chemin de l'espérance, afin, et c'est ce que nous dit l'épître de Tite, afin trois choses, et là aussi éminemment essentielles, je ne peux pas beaucoup les développer, mais je vous les partage aussi, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons zélés et afin que nous mettions en pratique de belles œuvres. Afin que nous soyons purifiés, c'est Dieu qui nous purifie. La purification n'est pas notre propre œuvre. Et l'on sait combien ce mot purification a engendré de drames, de purification ethnique. La purification appartient à Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Afin que nous soyons zélés, zélos, les zélotes, c'est ceux qui avaient vraiment à cœur de libérer le peuple d'Israël. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu zélés. Dieu n'aime pas les tièdes, nous dit l'Apocalypse. Retrouvons ce zèle de l'Évangile, l'envie de nous lever, de partager, d'être une église de témoins. Enfin, le troisième temps, afin que nous portions, que nous mettions en œuvre de belles œuvres. Et j'aime bien que ce soit le mot de beauté qui soit convoqué et non pas le mot de bonté, parce que les bonnes œuvres, ça fait un peu, ça fait un peu ringard. Voilà, les bonnes œuvres, les œuvres charitables de la paroisse. Il ne s'agit pas de ça, mais que nous soyons porteurs de belles œuvres, une dimension de grandeur, de beauté, à l'image de la beauté de la création. Voilà, frères et sœurs, ce qui surgit de ce psaume 147, cette magnifique confession de foi, qui nous dit, il y a des siècles de cela, ce que cela veut dire que d'être homme devant Dieu, et la manière dont Dieu veut être homme, veut être Dieu devant les hommes. Amen.